Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, 24 heures chrono.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Pour mieux vous faire vivre l'histoire de certaines séries, je vous ai déjà mis dans la peau d'un décideur, d'un network, qui sera viré avant que son projet ne devienne un méga hit, d'un showrunner ruiné qui trouve son inspiration auprès de sa mère, ou même d'un participant à l'enregistrement public d'un épisode d'une sitcom avec 6 amis. Ça, c'était pour le Previously dans Previously. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de moins glamour, mais de très efficace, vous allez voir. Vous allez être à ma place, carrément. Oui, alors pour partager l'histoire de 24 heures chrono, vous allez vivre mon histoire avec la série 13 années durant. Et cela raconté en 39 minutes chrono. Nous sommes en mai 2001 et vous êtes à Los Angeles. Enfin, je suis à Los Angeles, mais donc vous êtes à Los Angeles. Ah ouais, là, le glamour, ça remonte. Hein. Vous allez vivre la semaine la plus importante pour les responsables télé à travers le monde, les LA Screenings, les Screenings de Los Angeles. C'est la semaine où chaque studio vous fait venir pour vous montrer en intégralité les épisodes pilotes des séries qui ont été choisis par les grandes chaînes américaines pour la saison prochaine. Ce n'est pas ouvert au public, ce n'est pas ouvert aux journalistes, vous y êtes en tant que collaborateur d'une des chaînes du groupe Canal+, aux côtés de la responsable des acquisitions de cette même chaîne, Annette Blick. Le but pour les studios, vous convaincre, vous, les autres chaînes, ainsi que les Allemands, les Anglais, les Italiens et tous les autres pays, de sortir dès maintenant votre carnet de chèques et d'acheter pour votre chaîne une des nouvelles séries de cette saison. Parce que cela assurera un financement et complétera son budget. Ouais, vous avez bien entendu, l'acheter blind, sur la base d'un pilote. Ce rendez-vous annuel est donc devenu absolument crucial pour tous les studios et vous êtes traité comme un VIP dans les studios d'Universal ou au déjeuner de la Paramount. Vous allez donc passer des journées entières à visionner une quarantaine d'épisodes. Vous attendez avec impatience de voir quelques images de la nouvelle série Star Trek. La Warner va vous projeter le pilote de sa nouvelle série avec un jeune Superman, ça s'appelle Smallville. Disney vous fera découvrir sa nouvelle héroïne, Sydney Bristow, d'Alias, qui vous impressionne beaucoup d'ailleurs. Il est doué ce mec-là, hein, J.J. Abrams. Et comme on est lundi, vous êtes dans les studios de la 20th Century Fox à Century City. Le premier pilote en tête de liste que la Fox veut vous montrer, et dont elle est très fière, c'est une série d'une heure, un thriller d'action, qui a deux chiffres comme nom. 2 et 4. 24. 24. L'acteur principal en est Kiefer Sutherland, le fils de Donald, qui a connu un petit passage à vide dans les années 90, mais dont vous vous souvenez bien, parce qu'il a été dans des films comme Stand By Me, Lost Boys, Young Guns et Flatliners. Là, il tient le rôle de Jack Bauer, un agent de l'unité antiterroriste de Los Angeles, le CTU. Voilà, c'est tout ce que vous savez. Avec Alias, c'est de loin le concept le plus innovant, étonnant et impressionnant de la semaine. Une tension constante, des moments forts, comme ce criminel qui saute d'un avion de ligne en plein vol et le fait exploser, et surtout cette horloge-là. L'horloge qui égrène le temps qui passe, car on vous dit que la série est en temps réel. Un concept que l'on retrouve dans des films comme La Corde d'Alfred Hitchcock, ou même Le Train sifflera trois fois, et dans quelques épisodes de séries comme Urgence, Friends, et même dans une sitcom de Julia Louis-Dreyfus. Une sitcom totalement oubliée depuis, hein. Ça s'appelait Watching Ellie. Il y avait même une horloge qui égrenait les 25 minutes avant que l'actrice ne monte sur scène pour son One Woman Show. Là, les créateurs de la série Joël Surnau et Robert Cochrane, qui jusqu'alors menaient gentiment un autre thriller télé, La Femme Nikita, adapté du film de Luc Besson, utilisent pleinement le format de la série télé. Ben oui, parce que la série, ça compte en moyenne 22 ou 24 épisodes par saison. Et donc, pour faire 24 heures d'une seule et même histoire, ça tombe très bien. Chaque épisode va donc représenter une heure avant l'issue, fatale ou non. Pour dynamiser la narration, afin d'éviter les moments faibles, non seulement plusieurs histoires sont menées en parallèle, mais tous les stratagèmes cinématographiques sont utilisés. Et entre des images semblant provenir de caméras cachées ou de surveillance, ce qui augmente le côté un petit peu paranoïaque de la série. Et puis surtout, il y a les images fractionnées en écrans multiples. Le fameux split screen, qui montre des actions différentes se déroulant au même moment, voire les deux interlocuteurs d'un appel téléphonique. Et puis, puis encore, il y a cette fameuse horloge. Là, vraiment, ça vous obsède, hein. Cette horloge qui égrène les secondes inexorablement. Tac, tac, tac. Même pendant les pauses publicitaires. Bon, vous les voyez pas, vous, en projection. Mais on vous explique. Ben oui, aux États-Unis, sur les chaînes hertziennes, il y a des interruptions publicitaires tous les quarts d'heure. Et là, le temps des pubs est même pris en compte à la seconde près. Même si l'épisode ne dure réellement que 39 minutes, on arrivera aux 60 minutes pile. On passe donc dans le pilote de 0h 0 minute au début du pilote à 1h du matin, 0h 59 minutes 59 secondes à la fin. Le prochain épisode couvre l'heure suivante et ainsi de suite. Et en plus, l'heure que vous voyez, le premier épisode, le pilote donc se termine par un suspense absolument insoutenable, un cliffhanger. Alors si en France, la série va révéler ce gimmick du cliffhanger, ben c'est pas très nouveau, hein, vous le savez bien. Les séries, les feuilletons cinématographiques des années 40, du genre Les Périls de Pauline, clôturaient chaque chapitre par un cliffhanger censé inciter le spectateur à revenir la semaine suivante pour connaître son dénouement. Et puis déjà, dans les séries télé, il y a des mini-cliffhangers à la fin de chaque acte, avant la pause publicitaire. Ouais, regardez bien, vous allez voir. Et puis ça a été utilisé par les fameux soaps de soirée dans les années 80, vous vous souvenez? Les Dallas, Dynasty ou Côte Ouest. Et oui, vous vous souvenez de Qui a tué JR, par exemple, hein? Sacré cliffhanger. Sauf que là, on est dans un thriller d'action, avec chaque épisode diffusé de façon hebdomadaire. Et faire une série à suivre, ben c'est très très risqué. Après la projection, autant vous êtes bluffé par le rythme, le jeu de Sutherland et le style du pilote, autant vous avez des doutes sur la viabilité d'une telle série. Parce que non seulement ses contraintes sont absolument implacables, bon, il n'y a pas d'ellipse narrative possible, il n'y a pas de trajet trop long, ni donc de voyage en avion, il y a une dizaine d'épisodes qui vont obligatoirement se dérouler de nuit, ce qui est quand même un peu rédhibitoire pour tout un public, hein. Donc vraiment, les contraintes sont quand même bien là. Mais la dernière série à suivre, quand même, qui a existé en prime time à la télévision américaine, a connu un échec retentissant. Il s'agissait de Murder One, une série de Steven Bochco, où l'on nous promettait de résoudre une enquête policière au bout de la saison avec des indices au fil des épisodes. Non pas que la série soit mauvaise, hein, mais l'investissement demandé aux spectateurs, resté semaine après semaine, est beaucoup trop important. On va lui dire en substance qu'il doit absolument avoir vu la série depuis le début, qu'il lui sera impossible de la prendre en cours et qu'il ne doit pas manquer le moindre épisode entre octobre et mai. On est en 2001 quand même, hein, une époque où le replay n'existe pas encore. Donc c'est franchement très dur, vous demandez aux gens, alors voilà, tous les lundis soirs ou mardis soirs, vous devez absolument être devant votre écran, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Il n'y a guère que le coffret DVD qui permette de faire un visionnage en continu. Mais ça, vous, votre chaîne de télé, ça ne vous regarde pas. Malgré ces doutes, les collègues de Canal+ vont craquer. Ils vont faire l'acquisition de la série, tout comme TF1 d'ailleurs, en deuxième fenêtre de diffusion. Parce que TF1 est toujours très friand de séries d'action, et là, de l'action, il y en a, hein. Quelques semaines après votre retour de Los Angeles et alors que la rentrée approche, les chaînes vont définitivement valider les grilles de la rentrée. 24, 24, se retrouve le mardi soir face à une nouveauté, Smallville, bah justement. Et Smallville, elle, elle fait les couvertures des magazines. Pensez, bah, un jeune Superman, hein, c'est le rêve pour la presse. Pour TV Guide, l'unique magazine télé américain et référent sur le sujet, 24 est tout simplement, et je les cite, la meilleure nouvelle série de la saison. Pas une des meilleures, la meilleure. 24 est l'équivalent d'un thriller d'action, un blockbuster de l'été au cinéma, à l'époque où ils savaient encore en faire, écrivent-ils malicieusement. Et ils ne tarissent pas d'éloges. Sensationnel. One of the most exciting opening night ever. Vous regardez votre montre étonné que l'épisode soit passé si vite et vous programmez avec ferveur le prochain épisode. Bon, ils ont déjà tout capté du phénomène qui va frapper le spectateur, frustré à chaque fois de ne pas connaître la suite. La série est censée démarrer un tout petit peu plus tard que les autres, en octobre 2001. Et puis entre-temps, il y a le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés, le monde entier est choqué. Le lancement de la série est donc décalé au 6 novembre. Et une scène, dans le pilote que vous avez vu, va être supprimée. L'avion de ligne qui explose. Trop douloureux en cette période. De plus, si la série évoquait un assassinat, les événements vont ensuite l'inciter à aller de plus en plus dans la direction de la menace terroriste. Arrive donc la première journée de Jack Bauer. Il doit sauver le sénateur afro-américain David Palmer, candidat au poste de président des États-Unis, d'une tentative d'assassinat. Il doit aussi trouver au sein de son bureau qui est la taupe, la première d'une longue liste. Il doit aussi protéger sa famille. Sa fille a fugué, sa femme est partie à sa recherche, mais est menacée par les assassins que son mari tente de démasquer. Tous deux, la mère et la fille, vont être kidnappés par les criminels, la famille Drazen, Victor, André et Alexis, qui ont une revanche à prendre sur Palmer et sur Bauer. Bauer va donc être tiraillé entre sa famille ou la nation. Dans le générique, il résume lui-même la situation.
Right now, terrorists are plotting to assassinate a presidential candidate. My wife and daughter have been kidnapped. And people that I work with may be involved in both. I'm Federal Agent Jack Bauer. This is the longest day of my life.
Au CTU, Jack travaille avec Nina et Tommy Almeida. C'est Nina qui, en fait, est la taupe. Elle va d'ailleurs assassiner la femme de Jack Bauer, enceinte de lui. C'est un drame fondateur pour lui, qui oriente toute sa personnalité dans les saisons à venir. Il n'y a plus de limites, il n'attend plus rien de la vie. Cette première saison va connaître un succès critique largement mérité, valoir à Kiefer Sutherland un Golden Globe et aux deux créateurs un Emmy Award pour leur scénario. La deuxième journée de Jack Bauer est diffusée à la rentrée 2002, alors que la série démarre en France au même moment. Elle se déroule un an et demi après la précédente et une bombe nucléaire va exploser à Los Angeles. Cela va provoquer une escalade entre les États-Unis et trois pays du Moyen-Orient. Dans la deuxième partie de la saison, l'enjeu est de prouver que ceci est une manipulation pour éviter des frappes de représailles et une troisième guerre mondiale. David Palmer est devenu président des États-Unis, mais bien qu'étant maintenant son ex-femme, Sherry Palmer complote toujours, non loin de là. George Mason est dorénavant le directeur de CTU, mais il va se sacrifier en faisant sauter la bombe nucléaire en plein désert. Et cette deuxième saison est une saison qui a failli ne pas être comme la précédente. Les producteurs ont dû convaincre que le format feuilletonnant convenait et ils ont même écrit un épisode test avec une seule intrigue sur 24 heures, dans un épisode de 50 minutes, quoi. Mais avec les ellipses habituelles de la narration. Au final, la chaîne Fox, finalement, est restée sur le format un épisode, une heure, une intrigue au long cours. Mais on sent bien que les créateurs doivent se laisser des portes d'entrée pour qu'on puisse rejoindre la série en cours de route avec de nouvelles intrigues. Déjà l'année dernière, pour la saison 1, Robert Cochrane précisait que la première moitié de la saison est assez détaillée. On a une idée générale pour la deuxième moitié, mais des étapes spécifiques viendront au fil du temps parce qu'elles sont un peu brumeuses pour l'instant. Bref, ce qu'on commence à comprendre, c'est que la série est écrite au fil des semaines. Et, pour le citer, nous savons en gros ce que sera la dernière heure de la saison. Par contre, il ne savait pas depuis le début, par exemple, que Nina était la traîtresse. C'est survenu en salle d'écriture, un peu comme une blague, dit-il. De plus, ils avaient dès le début l'échec éventuel de la série et son annulation en milieu de saison en tête. Pour cette raison, d'ailleurs, une première arche narrative prend fin au 13e épisode, qui aurait donc pu être la fin de la série si elle n'avait pas fonctionné. Dès cette saison 2, les scénaristes de la Writers Room préparent les épisodes par pack de 6. Ils définissent donc à chaque fois, pour 6 épisodes, l'arc narratif. Le danger est de franchir les limites du crédible, le fameux « jump the shark », comme avec l'amnésie de Terry dans la saison 1 ou le cougar qui chasse la fille de Bauer dans la saison 2. On comprend bien qu'il n'est pas possible d'abandonner des personnages durant plusieurs épisodes, il faut bien leur trouver des intrigues parallèles. Mais faut-il encore que ça soit intéressant ? En juin 2003, alors que la saison 2 s'achève, vous allez en compagnie du journaliste Thomas Barrichello interviewer celui qui pourra répondre à pas mal de ces interrogations, justement, sur la continuité de la série. Il s'appelle Howard Gordon. Il est déjà connu pour son travail sur La Belle et la Bête, les X-Files et Angel, et il sera présent au Festival de télévision de Monte Carlo. Alors, vous y allez, vous le rencontrez, vous posez votre magnétophone et très vite, au bout de 2 minutes, Gordon, qui est un des principaux scénaristes de la série et sera par la suite son showrunner d'ailleurs, se met à discuter très sincèrement avec nous des soucis qu'il a rencontrés dans les saisons précédentes. Vous voulez vraiment qu'on parle du cougar aussitôt dans l'interview ? On avait déjà franchi la ligne jaune avec l'amnésie de Terry l'année dernière. On ne savait plus quoi faire d'elle. C'était soit le coma à l'hôpital, soit l'amnésie. On a dérapé aussi cette année avec le cougar. Mais la chance, c'est que dans ce cas-là, c'était quand même assez bref. On vous imagine bien écrire cette histoire en essayant d'y trouver des qualités. Ouais, on était vraiment à bout de ressources. Hein. On trouvait toutes sortes de justifications. L'animal allait personnaliser la sauvagerie de la forêt. Bon, c'était un vrai délire. Hein. C'était nul, on en rajoutait. On a beaucoup appris avec la première saison. Cependant, on n'a pas le temps de travailler sur toute la saison d'un coup. C'est toujours très improvisé, très spontané. On n'a que 5 ou 6 épisodes d'avance. On a défini au début de la saison une trame extrêmement générale, mais tout peut changer en cours de route. C'est ce qui crée la surprise. Qu'est-ce qui peut arriver maintenant ? Quel est le moment où tout bascule ? Le choc qui surprend les spectateurs ? Tout peut changer. On appelle ça le moment haha. Avec une telle procédure, c'est quand même dangereux. Ça vous est jamais arrivé de vous heurter à un mur ? De ne pas savoir ce que vous ferez la semaine prochaine ? Jamais ? Tout le temps. On écrit la série dans un état de panique constant. Mais vraiment, on est toujours persuadé que l'on ne peut pas aller plus loin, qu'on est foutu, que l'on s'est mis nous-mêmes dans une impasse scénaristique. Vous n'imaginez pas le nombre de nuits où je me réveille en sueur, en pleine angoisse. Écrire cette série, c'est un peu comme se mettre un réacteur d'avion entre les jambes, lancer le moteur et espérer pouvoir contrôler le voyage. C'est avec cette pression constante que l'on arrive à un résultat étonnant. Pour la troisième saison, par exemple, on a passé un mois entier, bien avant le tournage, à discuter de la saison, sans en trouver les ressorts. On pensait vraiment que la série était plutôt dominée par ces histoires. Mais plus on vous écoute, plus il semblerait que ce soit plutôt les personnages qui mènent le jeu. Les histoires doivent venir des personnages. Bien sûr, la trame est très serrée et elle fait avancer les choses. Mais on a besoin de connaître la dynamique des personnages. Dans la première saison, on avait un homme avec sa femme et sa maîtresse. Un autre homme qui reluquait sa maîtresse. C'était comme un soap opéra. Tous les personnages étaient en relation. On sera resté presque une heure à discuter avec Howard et on se reverra par la suite plusieurs fois sur d'autres de ses séries. La troisième journée de Jack Bauer se déroule 3 ans après la précédente. Il s'agit cette fois d'une arme biologique que l'on menace de lancer sur les États-Unis. Lors d'un épisode absolument horrifique, ils vont même la tester dans un grand hôtel. Jack Bauer, lui, doit affronter une addiction qu'il a contractée alors qu'il était en sous-marin dans une enquête dans le milieu des trafiquants de drogue. Et sa fille Kim travaille dorénavant à ses côtés au CTU. Et elle s'est attachée à son nouveau coéquipier, Chase. Sherry Palmer, l'ex-femme du président, va trouver la mort. Jack va assouvir sa vengeance et il réussira à tuer Nina. Par contre, pour obéir aux terroristes, il devra exécuter le directeur du CTU, Ryan Chappell, dans une scène qui restera gravée dans toutes les mémoires. Lors de sa quatrième journée, début 2005, Jack Bauer n'est plus au CTU, mais il est devenu chef de la sécurité pour le secrétaire de la défense, James Heller. Un personnage incarné par William Devane, oui, le cynique et machiavélique Greg Sommer de Côte-Ouest. Ben, maintenant, il est devenu un puissant homme politique, et en plus, il est honnête. Sa fille, Audrey, jouée par Kim Raver de New York 911, et plus tard de Grey's Anatomy, va devenir petit à petit le nouveau grand amour de Jack. Avec cette saison, 24 heures chrono change un peu de formule, avec de véritables mini-séries dans la série. En effet, systématiquement, les 4 premiers épisodes sont initialement programmés aux États-Unis sur 2 soirées consécutives et forment une espèce de longue histoire extrêmement spectaculaire et accrocheuse qui vous permet justement de vous accrocher pour la suite. La suite, justement. LR et Audrey sont kidnappés, puis des terroristes rentrent en possession d'engins qui peuvent déclencher des accidents dans les centrales nucléaires du pays. Ils vont descendre Air Force One avec son président à l'intérieur, et puis c'est un missile nucléaire qui est lancé sur LA. Bon, vous sentez un petit peu la surenchère, là, quand même, dans les actions catastrophiques, hein, voilà. À la fin, Jack doit simuler sa mort et se réfugier dans l'anonymat pour échapper au gouvernement chinois qui souhaite l'arrêter. La cinquième journée infernale de Jack Bauer marque un point culminant de la série. Devenu anonyme sous le nom de Frank Flynn, Jack revient pour venger sa collègue du CTU, Michel Dessler, mais surtout son ami, l'ancien président des États-Unis, David Palmer. Tous deux sont assassinés en début de saison et Tony Almeida, le mari de Michel, est sérieusement blessé. Tout cela est le résultat d'une conspiration et d'agissements terroristes visant à empêcher la signature d'un traité entre Américains et Russes. Mais le chef de tout cela, et ça c'est la grande révélation de la saison, c'est le nouveau président des États-Unis en personne, Charles Logan. Durant la saison, un gaz mortel est libéré dans un shopping mall et dans un hôpital, et même le CTU est envahi. Mais la plupart des personnages, Jack, Chloé, Kim, sont saufs. Edgar, par contre, va trouver la mort. Et à la fin de sa journée, Jack est capturé par les Chinois, ou les Chinois de la saison précédente, et il va être fait prisonnier dans un camp. C'est à la fin de cette saison éprouvante, en juin 2007, que, en compagnie de Romain Nigita, vous allez retrouver l'imposant et très sympathique Denis Isbert. Il était déjà venu l'année précédente au Festival de Monte-Carlo, mais là, entre sa fin inattendue dans la série et l'élection de Barack Obama, il y a de quoi discuter. On lui a demandé si, malgré sa disparition de la série, et à l'époque, avec son nouveau rôle principal dans la série The Unit, il est resté tout de même un peu de David Palmer en lui. Écoutez bien sa réponse, elle est à décrypter. Je resterai toujours David Palmer aux yeux de la plupart des gens que je croise. C'était un personnage tellement puissant, très apprécié. Et maintenant, il est immortalisé par le fait qu'il a été assassiné. Il est devenu un peu le JFK de la série. C'est devenu un modèle. Est-ce qu'il me manque ? Ah oui, absolument. C'est un personnage que j'aurais aimé voir perdurer.
It was a character I wish had lived on, you know, because
on aurait dû conserver l'idée, la chance, qu'un jour il puisse revenir. Parce que c'est attractif pour les gens. Si les choses se passent vraiment mal dans 24 heures chrono, il pourrait être de retour. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Et je pense que la série va en souffrir. La série rejoint la réalité en ce moment aux États-Unis. Je savais que c'était une question de temps. Vous parlez bien de Barack Obama, n'est-ce pas ? J'aime à penser que, quelque part, interpréter David Palmer lui a entrouvert un peu la porte. Mais, bien sûr, il évoluera en fonction de ses propres mérites. Si j'ai fait quelque chose avec David Palmer, c'était d'imprimer dans le psyché collectif des Américains que, oui, c'est possible. Qu'un président noir est quelque chose de viable.
Black president is viable.
En plus de tout ça, cette saison 5 se paye des guests comme Peter Weller de Robocop, Julian Sands et Sean Astin du Seigneur des Anneaux, qui a croisé les producteurs de la série alors qu'il était chez son chiropracteur. C'est à partir de cette saison 5 que l'on commence à évoquer l'idée d'une série de films long-métrages qui pourraient prendre la suite de la série. La saison 5 est considérée par beaucoup comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure de toutes. Et elle décroche 12 nominations aux Emmy Awards et elle remporte 5. Meilleure série, meilleure musique, la musique que vous entendez actuellement de Shin Kaloui, meilleur acteur pour Sutherland et meilleure réalisation pour John Cazar. Et John Cazar, lui aussi, vous l'avez rencontré 2 fois à Monte Carlo. On sous-estime souvent les réalisateurs d'épisodes de séries télé. Cazar ne doit surtout pas être sous-estimé, lui. Producteur de la série, il a mis au point son style visuel incroyable et travaillait déjà sur la femme Nikita des 2 créateurs de 24. Est-ce que la réalisation a changé au fil des saisons ? Ouais, probablement. Il y a eu quelques changements, mais il y en a tout le temps. Ça change en fonction du ton adopté pour la saison. Je veux dire, il y a des saisons où Jack apparaît comme un ange vengeur. Lors de la saison 5, c'est ce qu'il est devenu. Donc dans le style de ce que nous tournons et de ce que je fais en tant que réalisateur, ben, ça change. Ça modifie la façon de filmer, ça change tout. Cela modifie même la performance de Kiefer. C'est à moi de lui rappeler cela, parce que c'est le type de relation que nous avons. Donc ça change un peu tous les ans. On filme très rapidement. Il y a un rythme que vous obtenez en filmant vite. Et l'autre chose que nous faisons est que nous filmons chaque scène en entier. Ce que l'on ne fait pas avec un long métrage. Dans un film, on tourne une phrase, on coupe, on bouge, on tourne une autre phrase de dialogue. Nous, on ne fait pas ça. On tourne tout en une fois. L'autre chose que nous faisons, c'est de ne jamais laisser un personnage en off. Il n'est jamais hors caméra quand il enregistre un dialogue censé être au téléphone, par exemple. On est comme dans une pièce de théâtre. La caméra est toujours là. Donc chaque acteur doit être en permanence dans le rôle. Il ne peut pas être hors champ pour faire un dialogue avec un autre acteur. Il est filmé et il doit donc tenir le rôle tout le temps. C'est un style que je ne veux pas changer. Cazar est volubile et passionné par son travail. Il a même sorti un livre de photos qu'il a lui-même prise pendant tous les tournages de 24 heures chrono. Il va vous parler aussi de ce que la série a changé des séries télé habituelles. 24 heures chrono a fait revenir le format feuilletonnant sur le devant de la scène. Auparavant, c'était devenu quelque chose de tabou à la télévision américaine. La télé en Europe est plus habituée au feuilleton du genre Coronation Street. Nous, on accélère le rythme, bien sûr, mais à la base, c'est ça. L'histoire à suivre est redevenue possible grâce à 24 heures chrono. Et puis aussi, tuer des personnages principaux. Vous savez, personne ne le faisait avant nous. Enfin, il y a très peu de cas par le passé dans lesquels ça se faisait. Mais maintenant, Lost le fait, tout le monde le fait. Chaque série le fait. Toutes les séries terminent leur saison en tuant un personnage principal. La sixième journée de Jack Bauer, qui est initialement diffusée de janvier à mai 2007, commence alors que Jack est depuis 2 mois incarcéré en Chine. C'est le nouveau président Wayne Palmer, le frère de David, qui le fait libérer. Les USA sont sous le coup d'attaques nucléaires. Une d'entre elles va détruire la ville de Valencia, dans la banlieue de San Clarita. Et Jack va découvrir que son père, Philippe, et son frère Graham sont impliqués. L'ex-président Charles Logan va tenter de s'amender. Palmer va être blessé mais sortira du coma juste à temps pour empêcher une frappe nucléaire contre un pays du Moyen-Orient, suspecté d'être à l'origine des drames. Cette saison n'est pas loin d'être la pire de toutes. Même l'équipe de production le reconnaît. La septième journée de Jack Bauer démarre donc avec aussi son lot de problèmes. La première histoire qui a été écrite de la vie même de Howard Gordon ne fonctionne pas. Il faut tout refaire, reculer le tournage à octobre 2007 pour un lancement janvier 2008 comme d'habitude. Mais le 5 novembre 2007, vraiment pas de chance, la guilde des scénaristes se met en grève et empêche toute écriture de tout nouvel épisode de série. Avec seulement 8 épisodes en boîte, il est décidé de reporter purement et simplement la saison, plutôt que de risquer de tomber à court d'épisodes. De plus, Kiefer Sutherland doit purger une peine de 48 jours de prison en décembre 2007 pour conduite en état d'ivresse. Le tournage reprendra au final beaucoup plus tard, en avril 2008. Pour compenser l'absence de saison cette année 2008, un téléfilm unitaire est produit, Rédemption. Il est tourné en Afrique du Sud et montre Jack aux côtés d'un vieil ami missionnaire interprété par Robert Carlyle et impliqué dans un coup d'État mené par John Voight. Au même moment est nommée la nouvelle présidente des États-Unis, Alison Taylor. C'est un peu un téléfilm qui fait le lien entre les deux saisons. L'équipe de scénaristes met cependant à profit ce décalage d'un an pour faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire auparavant, prévoir l'arc narratif complet de toute la saison, et cela même avant d'écrire les derniers épisodes. Et malgré cela, le tournage doit encore s'interrompre en septembre 2008, parce que les 6 derniers épisodes demandent à être réécrits. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Le problème de la torture que Jack Bauer utilise sans remords et à outrance durant les saisons précédentes parce que, et je le cite, la fin justifie les moyens, devient de plus en plus important pour les diffuseurs internationaux. Non seulement de telles scènes sont légalement interdites dans les fictions en France, ce qui oblige TF1 à diffuser la série très tard le soir, mais avec les révélations des tortures dans les centres comme celui de Guantanamo, la série est accusée de légitimiser l'usage de la torture. En novembre 2006, les producteurs de la série ont même organisé une rencontre avec des militaires et agents du FBI. Et pour sa 7e journée, enfin terminée, enfin diffusée, la série accuse Réception des accusations qu'on lui fait. Jack doit répondre de ses actes de torture devant Senna. Bon, il y aura ensuite une nouvelle partenaire, très rigoureuse, René Walker, et verra le retour de Tony Almeida, que l'on croyait mort. La menace vient cette fois-ci de pirates informatiques qui prennent le contrôle des infrastructures du pays. Le moment le plus fort de la saison vient quand des terroristes envahissent la Maison Blanche et capturent la présidente Taylor après avoir pris son mari en otage. Enfin, Jack doit contrer la menace d'un produit pathogène mortel que son ex-coéquipier Tony Almeida menace de répandre. Jack sera exposé au produit et se prépare à mourir, non sans avoir fait la paix avec sa fille Kim. Et c'est alors que vous suivez avec patience cette nouvelle saison qui a démarré en début d'année 2009 que Kiefer Sutherland est de passage à Paris pour la promotion d'un film d'animation dont il assure une des voix. Grâce à Canal+, Vous allez donc enfin rencontrer Jack Bauer et interroger l'acteur, ben justement sur les interrogatoires un peu trop musclés qu'il pratique dans la série. Il y a eu les terribles événements d'Abu Ghraib et de Guantanamo qui ont été révélés. Et nous, nous devons refléter ce qui s'est produit dans notre société. Nous avons utilisé la torture dans le contexte de notre série pour montrer l'urgence d'une situation. Alors, quand ceci s'est produit dans le monde réel et que c'est devenu le gros titre des infos, il fallait nous adapter. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jack Bauer, au début de la saison 7, est interrogé par le Sénat de son propre gouvernement pour abus de pouvoir et torture de gens dont il avait la garde. Et ils vont le condamner pour ça. Et au début, tout le monde le pointe du doigt. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Et Jack a l'impression que le monde entier lui dit « Vous êtes mauvais ». Il va donc se refermer. Il va se comporter comme un robot au début. Mais une fois qu'il affronte cela, il va renaître. On voit qu'il accepte les choses, qu'il se rend à l'évidence et que c'est une partie très intéressante à interpréter. Il y avait aussi 4 épisodes que le scénariste avait écrits pour le début de la saison 7. Mais on ne pouvait pas trouver le moyen de faire revenir Jack Bauer d'Afrique à New York, comme le demande la série, en temps réel. Ils ont donc abandonné ces épisodes, et ils ont commencé maintenant la saison 7 telle que vous la voyez. Mais à l'origine, c'était censé être l'épisode 5. Et Howard Gordon a condensé ces 4 épisodes pour en faire le préquel, Rédemption, le téléfilm qui nous est d'une aide précieuse. Parce que non seulement cela établit le lien entre la saison 6 et la saison 7, mais cela montre aussi Jack Bauer dans un environnement très, très différent. Pas simplement géographique, en Afrique du Sud, mais aussi émotionnellement. Il est en rupture avec les États-Unis. Il a la sensation d'avoir été manipulé, trahi, utilisé. On aime les défis. John Cassar, notre réalisateur en chef, Howard Gordon, notre scénariste en chef, et moi-même en tant qu'acteur, toute notre équipe, 98% de l'équipe actuelle est celle qui était sur la première saison. C'est sans précédent. Et nous sommes tous convaincus d'être capables de faire la saison parfaite. C'est juste qu'on ne l'a pas encore faite. Et cela nous motive. En 2010, Jack Bauer vivra sa 8e journée infernale, cette fois à New York. Jack est recruté pour assurer que le traité de paix entre les États-Unis et un pays du Moyen-Orient est bien signé, et ensuite que des barres d'uranium ne tombent pas entre les mains de la mafia russe. Si la menace est finalement déjouée, René Walker va y laisser la vie. L'ex-président Logan va se proposer comme médiateur pour sauver la signature du traité, mais se révélera être un traître et se suicidera. La présidente Alison Taylor démissionne, et maintenant vengé, Jack doit quitter le pays, et il fait ses adieux à Chloé et à nous. Car en effet, on annonce officiellement la fin de la série en avril 2010. Le film 24 est en préparation. Un long métrage, mais qui au final ne se fera pas, malgré l'insistance des producteurs de Sutherland et du réalisateur attaché au projet, le regretté Tony Scott. En cause, un budget proposé de 30 millions de dollars alors que les producteurs envisageaient le double. Entre-temps, Kiefer Sutherland s'est lancé dans une nouvelle série, Touch. Et Howard Gordon prépare l'adaptation de la série israélienne à tout film en une série américaine qui deviendra Homeland. C'est aussi lors de cette saison que l'acteur Anil Kapoor, que l'on connaît pour le film Slumdog Millionnaire, est tellement impressionné par la série où il a un rôle qu'il décide d'en acquérir les droits et de jouer dans une adaptation pour la télévision indienne. Cette adaptation sera lancée avec grand succès en 2013 et connaît à ce jour 2 saisons. Et 4 ans plus tard, 24 heures chrono renaît de ses cendres. Elle renaît sous la forme de ce qu'on appelle dorénavant une série limitée. Bon, une mini-série. En fait, une série ponctuelle avec un début, un milieu, une fin, sans suite prévue. Elle s'appelle 24 Live Another Day et la mini-série se déroule entièrement à Londres où James Heller, toujours William Devane, est maintenant devenu président des États-Unis et il vient à Londres pour signer un traité. Audrey, sa fille, est aussi du retour et Chloé, en mode gothique, vient encore en aide à Jack. C'est Michelle Ferley, que maintenant on connaît bien pour Game of Thrones, qui est la méchante de la série. Au bout des 12 épisodes, Audrey se fait tuer et Heller, frappé par la maladie d'Alzheimer, démissionne. Au Au fil de ces 9 saisons, la série a connu des hauts et des bas en termes d'audience. Et j'ai demandé à un expert en la matière, Nicolas Millem, rédacteur de itstvnews.com, de nous en faire la synthèse. Je vous la livre donc ici. En 2001-2002, lors de la saison 1, les chiffres d'audience ne sont pas à la hauteur de sa réussite artistique et critique. Seulement 8,6 millions d'Américains l'ont suivi. Un chiffre juste correct à l'époque, puisque 24 heures chrono ne figure même pas dans le top 70 des audiences des programmes de prime time. Pendant ce temps-là, Friends, les experts urgences atteignent quand même 22 millions de fidèles. Et pourtant, la rentrée 2002, la série démarre sa deuxième saison par un record d'audience, avec 13 500 000 spectateurs au rendez-vous. Une partie du public a pu rattraper la saison 1 grâce à la sortie du coffret DVD ou la rediffusion sur la chaîne câblée FX. À l'arrivée, la saison 2 réunit une moyenne de 11 700 000 téléspectateurs, soit un gain d'environ 3 millions d'une année à l'autre. Suite à une audience retrait en troisième saison, moins 1,4 million, Fox va changer de stratégie de diffusion pour la saison 4 et la programme de janvier à mai, sans coupure dans la programmation et avec un lancement événementiel, c'est les fameux deux épisodes dont on vous a parlé, le dimanche soir et sa suite dès le lendemain. Et là c'est le jackpot, le 9 janvier 2005, la première heure de la saison 4 offre à la série sa meilleure performance avec 15 500 000 téléspectateurs. Au final, cette quatrième saison a séduit en moyenne 11 900 000 Américains. Un record pour la série. Et un record qui sera battu dès l'année suivante, puisque la cinquième saison, considérée comme beaucoup de fans comme la meilleure, sera aussi la plus plébiscitée avec 13 800 000 téléspectateurs. Après une sixième saison décevante, mais toujours très suivie en termes d'audience, 13 millions de personnes en moyenne, et malgré la longue absence due à la grève des scénaristes, et cela malgré le téléfilm Redemption, qui a fait quand même 12 millions en novembre 2008, l'audience de la saison 7 reste globalement stable. On est à 12 600 000 téléspectateurs. Bien que la fin de la saison soit la moins regardée de toutes, avec environ 9 millions de fidèles. Le déclin des chiffres le plus significatif intervient en saison 8. Et ça explique en partie l'annulation de la série. Celle-ci dégringole sur la catégorie très privilégiée des 18-49 ans et passe durablement sous la barre des 10 millions de téléspectateurs. 4 ans plus tard, en 2014, la saison Revival 24 Live Another Day, programmée en partie en début de l'été, réalisera des scores honorables de 8 millions pour le lancement à 6 500 000 pour le final. Mais il est vrai qu'entre-temps, les habitudes de visionnage de séries ont changé. Voilà, vous savez tout sur les hauts et les bas des audiences de 24 heures chrono. Merci encore Nicolas du site itstvnews.com. Depuis quelques mois, et malgré l'échec de la série dérivée 24 Legacy avec Corey Hawkins, Joël Surnau, Bob Cochrane et Howard Gordon planchent sur une série préquelle qui mettra en scène Jack Bauer avant sa toute première journée infernale. Mais avant de nous quitter, je voudrais qu'on retrouve Jack Bauer, enfin Kiefer Sutherland, qui est maintenant président des États-Unis en série Designated Survivor. Mais connaît-il le surnom que nous donnons tous à Jack? Allez, vous allez lui dire.
Iron Bladder.
Vessie de fer. Vessie de fer. Si seulement vous saviez. Vous savez, on a toujours rigolé de ça. Je crois que dans la saison 3, j'avais même fait une blague à propos de ça. John Cazar était à la réalisation. Au début d'une scène, je rentrais dans le hall d'un bâtiment où se trouvaient deux toilettes. J'ai foncé. J'y suis resté 5 secondes, j'en suis sorti. Toute l'équipe a éclaté de rire. John m'a dit, ah, tu sais quoi, pas une mauvaise idée, on va le faire. Du coup, je l'ai refait. Je suis resté 5 secondes. Je suis sorti. Il s'est dit qu'au montage, il pouvait passer sur autre chose entre l'entrée et la sortie. Mais lors du montage, ça a été immédiatement coupé. Les scénaristes ont dit hors de question. Je pense qu'en cette saison, j'ai dû avoir droit à 3 repas, dont un quand j'étais incarcéré, et je devais manger alors que j'étais attaché à une chaise. J'ai dû avoir un donut, un autre truc et quelques tasses de café. Mais c'est vrai que Jack Bauer ne mange pas beaucoup et il ne va certainement pas aux toilettes.
Enchanté, merci.
Vous souhaitez vous replonger dans l'intégralité de 24 heures chrono, ça tombe bien. Toute la série se trouve maintenant en SVOD sur Fox Play. Et la série dérivée, Legacy, vient d'y être incluse. La semaine prochaine, on parlera d'une comédie marquante avec un petit génie, ses frères casse-cou et ses parents totalement dépassés. Et Malcolm, lui, il sera au milieu. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.